Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out. Four forward.
Tout le monde est à son poste ?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Nous sommes au téléphone avec Géraldine, touriste française. Qu'avez-vous vu ? Qu'avez-vous entendu ? Il est 13h, la prise d'otage est en cours à Tunis et l'équipe d'ITélé a un scoop, le 06 d'une touriste française sur place. Géraldine parle à voix basse, elle est retranchée dans une salle du musée du Bardo à Tunis avec une quarantaine d'autres touristes. On est un peu paniqué, on entend beaucoup de bruit. Parfois, Géraldine crie « ça tire, ça tire ». La journaliste insiste, avare de détails, alors même que la prise d'otage n'est pas terminée. Alors, ça tire à l'extérieur, d'après vous, dans la rue, ou vous avez l'impression que les tirs s'approchent là où vous vous trouvez ? Avant de préciser, sympa, bien évidemment, Géraldine, votre sécurité est juste extrêmement prioritaire, restez bien retranchés. Comme le fait remarquer ce tweet de Matt Goa relevé par Rue89, on s'en fout des leçons de Charlie, on va appeler les personnes retranchées en espérant qu'ils soient sur vibreur. Tout est dit.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons deux sportifs un peu givrés qui s'apprêtent à courir 250 km dans le sud Maroc. Ce sera juste après la chronique vigie de Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et les propos politiques ce soir. Zoom sur le salaire des députés français. Mais d'abord, 12 jours après l'attentat à Bamako, quelle est la situation au Mali ? La coopération entre Angers et Bamako est-elle remise en question ? On en parle tout de suite.
Tout a commencé un peu après minuit, ici à Bamako, dans la capitale malienne. Un commando qui débarque devant un bar-restaurant qui est du nom de la terrasse. Le commando monte, c'était un homme à la tête du commando qui monte sur la terrasse, selon les témoins, et qui ouvre le feu, et fait usage de grenades. Et plusieurs personnes s'écroulent et un Français a été tué, mais également un ressortissant belge, un autre ressortissant européen dont on n'a pas exactement la nationalité encore est blessé, et deux autres Maliens sont blessés.
Serge Daniel, correspondant de France 24 à Bamako sur ITélé le 7 mars dernier. Bonjour Ibrahima Tamega.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Devoir de Génération et représentant local du réseau international Face au DERN. Avec vous en studio, bonjour Miki Keita.
Bonjour.
Vous travaillez avec Ibrahima Tamega dans ces structures dont je viens de parler.
Exactement.
Bonjour Fancé Koulibaly.
Bonjour.
Vous êtes président de l'association Benso, l'association des étudiants maliens à Angers. Alors, vendredi 6 mars, au soir, une fusillade... Oui, pardon.
Des Maliens d'Angers.
Maliens d'Angers, pardon. Vendredi 6 mars dernier, donc au soir, une fusillade a eu lieu dans un bar de Bamako, faisant 5 morts, 3 Maliens, un Français et un Belge. Jusqu'à cet attentat, Bamako était considérée comme une ville relativement sûre. Est-ce que d'abord vous avez été surpris que la capitale malienne soit attaquée ? Fancé Koulibaly.
Oui et non à la fois. Oui, parce que en ce moment, partout dans le monde, que ce soit au nord ou au sud, nous pouvons dire qu'il y a une menace réelle de l'attentat qui est là. Non, parce que Bamako, en tant que capitale du Mali, n'avait jamais connu un tel attentat. C'est le tout premier attentat qui est survenu à Bamako. Donc, du coup, nous sommes choqués et puis horrifiés par cet attentat et par cet attentat. Donc, pour l'instant, voilà ce que je peux dire sur cet événement malheureux à Bamako.
Miki Keita, Ibrahima Tamega, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Oui, bon, rien de particulier. Effectivement, c'est vrai que c'est cet attentat, enfin, disons, le risque djihadiste quand même planait sur, comment dirais-je, sur le Mali depuis l'arrivée justement des djihadistes en 2012. Donc, en fait, la question plutôt est de se dire, est-ce que, comment dirais-je, quelles ont été les mesures qui ont été mises en place ? Est-ce qu'elles étaient suffisantes ? Et donc, voilà, donc je crois que je me penche beaucoup plus vers ce côté.
Alors, Ce bar-restaurant, la terrasse, on dit qu'il était majoritairement fréquenté par des expatriés, c'est bien ça. Et parmi les victimes de cet attentat, donc Fabien Guillaumard, 30 ans, originaire d'Angers, il était parti vivre à Bamako en 2005, c'est ça, 2005. Je crois que vous le connaissiez, Ibrahima Tamega, peut-être que vous aussi autour de la table.
Bien sûr, moi je connaissais comme aussi les autres compatriotes qui sont là. Je connaissais personnellement Feu Fabien Guillaumard, qu'on appelait au Mali Moussa Tolo, tellement qu'il était intégré, tellement qu'il aimait ses pays. Aujourd'hui, parler de cet attentat, j'ai comme les autres compatriotes une pensée pour l'ensemble des victimes, mais aussi c'est l'occasion d'exprimer encore une fois, comme on l'a fait lors de la marche au Rassemblement de solidarité de samedi dernier, un hommage à l'ensemble des familles. Comme vous l'avez posé la question tout à l'heure, on ne s'attendait pas à ce que le Caire du Mali, c'est-à-dire la capitale du Mali, soit aussi frappé par ses ennemis de la paix et ses ennemis de la sécurité qui aujourd'hui sèment terreur et désolation depuis 2012, comme il a rappelé M. Keita Miki. Nous sommes surpris, mais c'est bien sûr l'occasion aussi de voir comment les mesures de sécurité des populations et de leurs biens puissent être garanties partout au Mali, pas seulement à Bamako, parce que les victimes de tous les jours, c'est aussi dans toutes les régions du nord du Mali, c'est aussi dans certaines régions aussi du sud du pays.
Vous aviez dit alors samedi dernier que Fabien était un acteur modèle de la coopération angevine. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ?
Un acteur de la coopération angevine, quand vous voyez Fabien, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le côtoyaient à Bamako comme à Angers, bien sûr que quand Fabien vivait au Mali, les Bamakois le considéraient comme un Bamakois, tellement qu'il était un des nôtres, tellement qu'il connaissait nos codes sociaux, tellement qu'il était bien intégré dans les familles. Il était aussi travailleur parce qu'il n'était pas touriste au Mali. Fabien, il vivait, il avait des liens sociaux, mais il menait aussi une activité professionnelle. Il a travaillé dans différentes structures. Donc pour nous Maliens, c'était un Bamakois. C'est l'exemple parfait d'un Français intégré au Mali, de façon générale, un modèle pour vraiment d'intégration d'un occidental en Afrique.
On va peut-être rappeler un petit peu la situation au Mali, et particulièrement dans le Nord Mali, comme c'est un peu compliqué, vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Alors ça fait 3 ans, vous l'avez dit, ça a commencé en 2012, que le pays est secoué par des conflits dans le nord du pays. Le mouvement national de libération de l'Azawad, un mouvement Touareg, s'est allié avec Ansardine, un groupe armé islamiste, pour renverser le gouvernement de Amadou Toumani Touré en 2012. Et s'en sont suivies des élections présidentielles qui ont mené Ibrahim Boubacar Keïta à la tête du pays. Puis, il y a 2 ans, le début de l'opération militaire française qu'on appelle Serval, c'était en janvier 2013, qui s'est achevée en juillet dernier. Et depuis, c'est l'opération Barkhane qui a pris la suite. Elle vise à lutter contre les groupes djihadistes dans la région du Sahel. Comment se porte le Mali aujourd'hui concrètement? Là, c'est des mots, c'est une situation expliquée comme ça, mais concrètement, quel est le quotidien des Maliens, que ce soit à Bamako et dans le nord du pays?
Oui, donc...
Keïta.
Oui, merci. Donc, comme vous l'avez si bien noté, donc, effectivement, le Mali traverse une crise politico-sécuritaire sans précédent. Et puis, face à cette crise, on peut noter quand même un certain nombre d'enjeux. Donc, parmi ces enjeux-là, il y a les enjeux politiques. Hein. Donc, avec l'arrivée de la Chine sur le marché, la concurrence chinoise, et les enjeux énergétiques aussi, notamment liés au pétrole, l'uranium. Et donc, pour finir aussi, un autre enjeu donc, lié à la sécurité, notamment donc, avec... l'arrivée notamment des djihadistes dans le nord Mali. Donc il y a l'ensemble justement de ces enjeux font que maintenant le nord Mali est maintenant convoité quand même par pas mal de personnes. Donc ce qui donne aussi une nouvelle manière de voir justement cette crise qui, bien évidemment, avait commencé depuis l'indépendance du Mali, parce qu'on peut le remarquer, depuis l'indépendance du Mali, il y a eu un certain nombre de rébellions. D'ailleurs, à plus ou moins grande échelle et qui ont, en tout cas jusqu'à présent, l'État avait réussi justement à gérer convenablement la situation. Donc voilà, donc c'est vrai que le quotidien, pour répondre à votre question, le quotidien justement des populations, c'est quand même assez indécent. C'est que les populations du jour au lendemain se sont retrouvées en tout cas à quitter leur pays pour aller se réfugier justement dans des pays voisins, notamment le Burkina et la Mauritanie, et qui vivent à l'heure actuelle donc des situations dramatiques. Et donc cela est intolérable. Et pour quelles raisons? Parce que tout simplement, il y a quelques individus que je pourrais appeler d'opportunistes et qui saisissent, qui se revendiquent et représentent justement de ces populations pour perpétrer, et comment dirais-je, des actes barbares à l'encontre justement de ces mêmes populations. Et donc voilà, sans m'aventurer là-dessus, je crois que c'est entre autres des points qu'on pourrait en tout cas citer et dans ce conflit.
Vous avez évoqué l'arrivée de la Chine, c'est peut-être un point qu'on connaît moins ou qui est plus dans l'ombre. Comment elle se... Depuis quand? Et comment est-ce que ça se passe sur place en fait?
Oui, depuis, en tout cas, les cinq dernières années, il y a la Chine en tout cas qui a commencé justement à nouer des partenariats commerciaux donc, avec un certain nombre de pays africains, dont le Mali. Et donc, bon, cela n'est pas forcément vu d'un bon œil par les Occidentaux qui sont historiquement les partenaires, donc, notamment la France et un certain nombre de pays. Donc voilà, cela peut créer effectivement, susciter une certaine, comment dire, un certain engouement et donc, vis-à-vis de la France qui a l'impression justement qu'on a tendance à lui prendre en fait la place historique qu'il avait. Donc ça, et ça fait partie des enjeux, hein, donc des enjeux géostratégiques. Et donc les Maliens de façon générale, le Mali en tout cas a toujours réaffirmé sa volonté de continuer à travailler avec la France, mais ceci dit en tout cas quand et on se retrouve à des situations où c'est l'intégrité même, l'existence même d'une nation qui est menacée, je pense qu'il faut quand même revoir sur le fond ces questions là, surtout que sans même empiéter le sujet, c'est que cette question qui est, comment dirais-je, liée justement à l'existence du Mali et concerne directement les pays occidentaux, parce que les revendications qui sont faites par ces groupes armés, à mon avis, ça n'arrange personne, parce que, comment dirais-je, le but justement de ces individus, c'est de créer une zone de non-droit où ils pourront, comment dirais-je, se vaquer à leurs activités de narcotrafiquants, de, comment dirais-je, enfin, de trafic d'êtres humains. Et donc, avec notamment la présence des djihadistes qui sont sur place, donc ça n'arrange absolument personne, non seulement l'État malien, mais aussi justement nos partenaires occidentaux, et encore moins ces groupuscules armés, parce qu'on a vu dans le passé, dans un passé récent même d'ailleurs, quand les forces servales avaient réussi à détruire ou en tout cas à faire fuir justement ces islamistes. Et le MNLA et alliés, ils n'avaient pas réussi à faire face justement à ces djihadistes. Donc ça veut dire que si jamais on laisse, en tout cas, l'indépendance tant réclamée par ces gens-là, ils n'arriveront pas à assurer une stabilité de cette zone. Et c'est là, ça va être une sorte de, vraiment, de, comment dirais-je, de no man's land, où chacun aura sa part vraiment des responsabilités là-dedans. Donc on a tout intérêt à défendre l'intégrité territoriale, la paix et l'unité au Mali.
Fonse Koulibaly, pour rebondir sur ce que vient de dire Miki Keïta, comment faire justement pour assurer cette paix, cette sécurité au Mali?
Et merci. Alors, effectivement, ce qu'il vient de dire mon frère Miki Keïta, c'est, comment dirais-je, une histoire qui est vraie dans cette histoire de la rébellion malienne ces temps-ci. Alors, ce que je peux ajouter par rapport à cela pour quand même assurer la paix et la sécurité au Mali, c'est d'abord que chaque partenaire joue le jeu franc. Je m'explique. Et j'avais eu à dire ici, sur le même plateau, il y a quelques mois, j'étais avec Ibrahim Tabega lors du 40e anniversaire de la coopération à Bamako. Et j'ai une question que je me pose tous les jours quand je me lève de mon lit. Je ne suis pas le seul, sans doute tous les Maliens se posent la même question. Souvenez-vous, il y a 3 ans, il y a 3 villes maliennes qui étaient sous l'occupation. Tombouctou, Gao et Kidal. Donc, avec l'intervention de l'armée française que nous avons saluée à l'époque, a pu libérer 2 villes en quelques jours,
notamment Gao et Tombouctou. Mais à ce jour, on n'a pas pu libérer Kidal. Et pourquoi? Donc, c'est une question que tous les Maliens se posent tous les jours. Et il vient de dire à un moment, M. Keita encore, surtout au moment où on libérait ces villes-là, les Mnella pratiquement n'existaient plus. Et donc, on ne sait pas si c'est une complicité, comment dirais-je, express ou... Voilà, en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, avec l'armée française, on a su après que les Mnella a pu se réorganiser et puis se réarmer encore. Et puis, pour libérer Tombouctou, l'armée française n'était pas seule sur le terrain. Elle était avec l'armée malienne. Pour Gao, pareil. Mais pour Kidal, on a dit stop à l'armée malienne. Et c'est l'armée française seule qui est partie sur le terrain. Et jusqu'à ce jour, on n'a pu libérer Kidal. Donc du coup, on ne comprend pas trop ce jeu vraiment de nos amis français. Et puis quand on dit français, et souvent on s'explique parce qu'on ne parle pas de la population, on parle de la France officielle. Voilà, il faut que cela soit clair. Donc on ne comprend pas vraiment cette position de nos amis français. Donc tant qu'on ne joue pas le jeu clair, on n'arrivera jamais à la paix et la sécurité au Mali. Juste, je termine sur cette partie. Je me vais pour un exemple. Vous venez nulle part. Prenons l'exemple en France ici. La Corse. La Corse, ce n'est pas un territoire, on va dire, français. Mais pourquoi on a clairement dit que jamais, au grand jamais, ils vont pas négocier avec les terroristes, ceux qui mettent des bombes, des attentats en Corse. On dit qu'on ne va pas négocier avec eux. Et pourquoi on ne donne pas l'autonomie aux Corses? Pourtant, le nord du Mali fait partie intégrante du territoire malien. Et on nous pousse, on nous propose vraiment de donner, d'accorder cette autonomie aux rébellions du MNLA. Donc voilà, c'est la question qu'on se pose. Tant qu'on ne joue pas le jeu franc, il n'y aura pas la paix et la sécurité au Mali, malheureusement.
Ibrahima Tamega, rapidement parce que le temps file, est-ce que vous êtes d'accord avec votre collègue de gauche, Fancé Koulibaly, sur cette question-là, sur la ville de Kidal particulièrement?
Il se trouve qu'à Kidal, comme dans les autres régions du nord du Mali, ce sont le MNLA, un groupe que nous avons, depuis le début de la crise, très clairement qualifié d'organisation terroriste, mais que certains veulent redorer les blasons. C'est bien, il faut le rappeler, l'occasion nous est offerte, que c'est le MNLA qui s'est associé aux islamistes pour égorger nos serres, pour détruire nos écoles, pour porter un projet au nom des populations qui ne leur ont jamais mandaté. Le MNLA est aujourd'hui en face des autorités maliennes lors des négociations à Alger, il faut le dire, qu'il y a un projet d'accord proposé par la médiation algérienne qui a été déjà paraffé. Mais dans ce projet, nous on pense au sein de Faso Deum qui a une forme d'autonomie déguisée qui est proposée aujourd'hui. On crée les conditions d'une autonomie dans le nord du Mali. On pousse les Maliens à se mettre à genoux face à des gens qui ont commis des crimes atroces, face à des gens qui se sont alliés aux mêmes criminels de guerre qui viennent de tuer notre ami Fabien Guillaumard. Il faut le rappeler que les MNLA est lié à ces mêmes organisations, qu'on ne doit pas obliger la nation malienne à discuter, négocier avec des violeurs de femmes, avec des djihadistes, avec des gens qui ont coupé des mains, détruit les mausolées de Tombouctou. Nous le rappelons aujourd'hui parce que ça nous touche. Et la paix au Mali passerait indéniablement par le désarmement de ces groupes armés et aussi et surtout par la justice. On ne peut pas commettre des crimes et qu'on te regarde comme un partenaire privilégié. Ceux qui ont commis des crimes du nord au sud du Mali, de l'est à l'ouest, doivent passer devant la justice. Ils doivent répondre de leurs actes. C'est seulement la meilleure condition, la seule solution pour amener la paix durable au Mali. Pas une paix préfabriquée. Pas une paix pour faire plaisir à des gens qui ne représentent personne dans le nord du Mali. Nous insistons là-dessus, le MNLA ne représente aucune aspiration populaire dans le nord du Mali. Il est temps que la communauté internationale arrête de donner du crédit à cette organisation terroriste. Si on lutte contre les organisations terroristes dans le monde, il faut le faire partout. On ne va pas jouer à la sélection de qui est le bon terroriste ou qui est le mauvais terroriste. Un terroriste reste un terroriste. Ces gens ont blessé la nation malienne. Ils doivent répondre de leurs actes.
On va poursuivre cette discussion juste après un groupe malien, Songoy Blues, avec Irganda. Irganda.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et ce soir, on parle du Mali en compagnie d'Ibrahima Tamega, Miki Keita et Fancé Koulibaly. Alors, après les attentats du 6 mars dernier, la maison Angers-Bamako a été fermée au Mali. Je rappelle aux auditeurs que Angers-Bamako sont en coopération depuis 41 ans, puisqu'on a fêté les 40 ans l'année dernière. Qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture? Alors, la maison, elle a été fermée sur les recommandations de l'ambassade de France. Qu'est-ce que vous pensez de cette fermeture et est-ce que vous craignez pour la coopération entre Angers et Bamako?
Lors du rassemblement de solidarité avec le Mali le samedi dernier, moi je l'avais redit sur les antennes de Angers Télé pour dire que cette fermeture de la maison du partenariat nous inquiète un peu. Nous inquiète nous qui sommes impliqués dans la coopération Angers-Bamako dans ces jumelages et qui sommes les fruits aussi de ces partenariats, parce que la maison de partenariat joue quand même un rôle de relais entre les partenaires sur place là-bas à Bamako. Et bien sûr que c'est pour les mesures sécuritaires que les autorités françaises, l'ambassade et la mairie d'Angers ont décidé de la fermeture. Nous, les Maliens, on ne peut pas décider de la réouverture. Par contre, nous l'espérons vivement parce que nous avons envie que le partenariat continue, que le jumelage qui date maintenant de plus de 40 ans puisse continuer et que des acteurs se multiplient. Nous, Maliens d'Angers, on se mobilise justement à Angers ici. On se réorganise au sein de l'association Face Odéon pour militer dans le cadre de cette coopération. D'ailleurs, le samedi prochain à Angers, il y a une réunion des Maliens d'Angers justement dans les locaux de l'Office de coopération internationale d'Angers. Nous invitons d'ailleurs tous les Maliens d'Angers à cette réunion qui est prévue pour le samedi donc à 15h. Et l'occasion pour nous de parler de nos projets de solidarité entre nous, mais de l'organisation prochaine aussi d'un projet qui consiste à organiser le week-end culturel et de solidarité avec le Mali à Angers, mais aussi un projet en soutien à l'EDAC, l'école des déficients auditifs à Kita au Mali.
Fancé Koulibaly, Miki Keita, qu'est-ce qu'apporte cette coopération Angers-Bamako à Angers et à Bamako?
Et d'abord, cette coopération Angers-Bamako porte beaucoup pour nous, Maliens à Bamako. Parce qu'il faut reconnaître que cette coopération, ça fait 41 ans, comme vous venez de le dire. Alors, quand on regarde le bilan pendant ces 40 ans passés dans cette coopération, on voit que quand même Bamako a pu bénéficier beaucoup des réalisations de la part de la ville d'Angers. Et comme vous le savez aussi, Bamako est divisé par ses grandes communes. Et chacune de ces communes a bénéficié des clercs, communément appelés centres de lecture et d'animation pour l'enfance. Et à cela, il faut ajouter aussi les CESCOM, les centres de santé communautaire aussi, qui ont été construits ou équipés par la ville d'Angers. Et plus l'encadrement et la formation du personnel bamakois. Donc nous, à nos yeux, voyant fermer cette maison de partenariat, même si nous comprendrons effectivement la raison de cette fermeture, mais quand même à long terme, ça pourrait bien impacter sur la coopération Angers-Bamako, parce que c'est le seul lieu, le seul endroit, quand les Angers ils arrivent à Bamako, c'est là-bas où ils sont logés, c'est là-bas où ils rencontrent leurs partenaires maliens pour discuter de leurs projets et puis de leurs partenariats. Donc, encore une fois, nous osons espérer que cette fermeture n'est que vraiment temporaire.
Miki Keïta, j'imagine que vous partagez cet espoir.
Oui, 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 entièrement. Je crois que l'essentiel a été dit, mais effectivement, nous-mêmes d'ailleurs qui sommes ici, nous sommes un peu les fruits naturels, donc de cette coopération, dans la mesure où, donc à l'époque où j'étais d'ailleurs lycéen, donc j'avais mon frère aussi justement qui avait noué des liens de partenariat avec les différentes associations donc angevines. Et qui au final est venu s'installer là, et moi de façon indirecte aussi, donc j'ai fait le choix de venir à Angers parce qu'il y avait justement ce jumelage. Donc voilà, qu'on le directement ou indirectement, en tout cas le partenariat quand même, ça nous a rapporté en tout cas que du positif finalement à travers les échanges donc culturels, et franchement, et ce serait, comme François le disait, ce serait dommage quand même de suspendre, comment dirais-je, ce mariage donc comment dirais-je, qui a si bien fonctionné quoi finalement. Donc oui, donc moi j'ai pas grand chose à rajouter en particulier, à part justement le rôle que joue là maintenant les jeunes dans cette coopération décentralisée que nous menons depuis un certain temps, comme Tameka disait tout à l'heure, donc les actions qu'on va mettre en place au sein de la communauté malienne pour renforcer la solidarité entre nous, mais aussi renouveler ce partenariat, ces liens qui existent entre Angers et Bamako.
Un dernier mot à vous trois. Est-ce que vous allez retourner dans les prochaines semaines, les prochains mois à Bamako, au Mali?
Nous, on a, avec Miki et l'ensemble des membres de l'association Face au Déon à Angers, les Maliens d'Angers, on a un projet prochainement pour aller au Mali. Nous y travaillons depuis quelques mois maintenant. Il s'agit concrètement d'aider l'école des déficients auditifs, comme je le disais tout à l'heure, de Kitakourou, qui se retrouve dans la première région du Mali. Donc notre prochain voyage, en termes de projet en tout cas, pas de projet de voyage personnel, en tout cas associatif, ça va concerner au développement de l'association Face au Déon au Mali, mais aussi de cette action concrète qu'on souhaite mener en place avec Fatoumata Diakité, une des membres de Face au Déon à Angers, qui s'implique beaucoup pour l'éducation des handicapés, pour la prise en charge et l'inclusion des handicapés au Mali. Et c'est l'occasion de dire bravo à Fatoumata pour son travail.
Francis Koulibaly, en ce qui vous concerne?
Oui, en ce qui me concerne, tous les ans, je suis à Bamako pour 6 semaines de vacances. Et voilà, cette année, malheureusement, je n'ai pas pu aller il y a un mois de cela. Donc, mon prochain voyage est prévu dans 3 semaines. C'est une façon non seulement d'aller se ressourcer, mais aussi rester en contact avec les concitoyens qui sont restés sur place là-bas et voir avec eux dans quelle mesure nous pouvons travailler ensemble, échanger ensemble et puis apporter notre petit plus dans cette coopération Angers-Bamako.
Merci beaucoup à vous trois, Fonse Koulibaly, Ibrahima Tamega et puis Miki Keïta d'avoir été avec nous ce soir.
Merci. Merci à vous.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. L'un des plus grands orchestres du moment, le Super Rai Band du Buffet Hôtel de la Gare de Bamako, dans sa nouvelle dimension, vous présente sa couleur musicale pour le bonheur de tous les mélomanes d'Afrique et d'ailleurs. Thank you.
C'était Super Rayburn avec Foliba.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
On est mercredi, il est 19h33. C'est l'heure de retrouver Pierre-Antoine qui décortique les chiffres et passe à la moulinette les propos de nos hommes et femmes politiques. Salut Pierre-Antoine.
Salut.
En ces temps de campagne électorale pour les départementales, les hommes politiques sont surtout les fronts. Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale, était l'invité dimanche dernier de Tous Politiques sur France Inter.
Et le quatrième personnage de l'État a réexprimé sa volonté de voir le Sénat disparaître et a défendu bec et ongle l'action du gouvernement du Bartolone dans le texte donc, mais il estime également que les députés français ne sont pas assez payés.
Je veux de nouveau insister auprès de ceux qui nous écoutent. Les parlementaires sont des gens qui ont une réelle activité. Ils sont rémunérés dans la moyenne des rémunérations des parlementaires au niveau européen. Les Allemands, les Anglais sont mieux rémunérés que les parlementaires français.
Alors Pierre-Antoine, les députés français sont-ils dans la moyenne ?
Eh bien Tiffaine, un député français a une rémunération de base de 7 100 € et 15 centimes exactement par mois. Un salaire loin derrière celui des Italiens, 11 282 €, de l'Autriche, 8 160 ou même de l'Allemagne, 7 768 €.
Alors Claude Bartolone aurait raison quoi ?
Bah, tu sais bien que si on en parle aujourd'hui, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai, hein, car à cette rémunération de base, un député français peut ajouter une flopée d'avantages et gratifications. Il faut donc comptabiliser plus de 6 000 € de frais de représentation, soit un total de 13 500 €. Pour information, un parlementaire reçoit en plus une enveloppe de près de 9 000 € pour rémunérer ses collaborateurs.
Une pratique courante dans de nombreux pays européens.
C'est vrai, Tiffaine, que la pratique est courante, mais lorsque l'on compare avec les autres pays européens, les parlementaires français sont en sorte plutôt très bien. Un Anglais, par exemple, gagne plus de 3 000 € de moins, même s'il dispose de 11 000 € pour ses collaborateurs. L'écart est encore plus flagrant avec l'Allemagne, dont les députés avaient une rémunération de base, tu t'en rappelles, Tiffaine, plus importante. Mais les Allemands ne reçoivent pas d'autres rémunérations que les 7 768 € prévus au départ.
Et qui sont les parlementaires qui gagnent le plus ?
Bah, du côté des salaires les plus forts, il faut se tourner vers la Grèce, dont les députés touchent au total près de 17 000 € et tiennent ainsi la première place du classement européen. Attention toutefois à ne pas trop se gaver, ce serait dommage de devoir défaire un bouton de son pantalon lorsque l'on a demandé au peuple de se serrer la ceinture.
Joli, merci Pierre-Antoine.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Il y a certainement quelque chose qui ne tourne pas rond chez eux, qui se taperaient volontairement une course de 250 km dans le sud Maroc. Eh bien eux, quatre angevins, dont nous avons deux spécimens en studio. Je salue donc David Berrien, bonsoir.
Bonsoir.
Et Romain Clément, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, du 3 au 13 avril, vous participerez à cette course, le Marathon des Sables, dont j'ai cru comprendre qu'elle faisait partie des 10 courses les plus dures au monde. Vous nous rappelez le principe ?
Le principe, c'est une course en autonomie totale, en fait, alimentaire, donc dans le désert sud-marocain, pendant 6 jours, une épreuve de 6 jours, pour, en fait, repartir aux sources directement comment dire, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça.
C'est six jours, mais la course dans la journée, c'est combien de kilomètres par exemple ?
C'est l'équivalent d'un marathon par jour, avec une étape qui doit faire pas loin de 100 kilomètres, à peu près au milieu du séjour. Mais surtout dormir dans le désert, surtout manger, se faire manger tous les soirs en rentrant, se faire à manger tous les matins en se réveillant, parce qu'on est réveillé donc directement au lever du soleil, on se couche avec le soleil, on court avec les températures du désert et on dort avec les températures du désert la nuit aussi.
Est-ce que vous aviez déjà participé avant à une course de cette ampleur-là ?
Disons qu'on a une certaine expérience, tous les quatre, on arrive de sports complètement différents, que ce soit moi à travers le triathlon, Romain à travers des trails, Franck qui a déjà une expérience assez forte, qui est un petit peu notre leader, Franck David qui a déjà lui réalisé la Diagonale des Fous et en 2009 qui a déjà également fait le Marathon des Sables, et puis Jean-Edard Travers également qui lui a fait beaucoup de poney étant jeune et s'est mis à la course à pied un peu sur le tard. Donc voilà, disons que ça demande une préparation assez longue. On a fait à peu près, on faisait à peu près 80 km de moyenne par semaine là durant 6 mois à peu près, avec déjà des bagages donc au préalable dans différentes disciplines sportives.
Une des spécificités de la course, vous l'avez dit, c'est cette autosuffisance alimentaire. Concrètement, ça veut dire quoi ? Vous partez avec de la bouffe pour 10 jours et puis votre eau et tout ça ? Comment
ça
se passe ?
Alors on prend les marmites de maman.
C'est
et
ça,
puis,
les bonnes marmites en fond.
C'est ça. Non, concrètement, on prend du lyophilisé. C'est-à-dire que on fonctionne un petit peu comme les marins du Vendée Globe ou d'autres grandes aventures humaines comme ça. On prend de la nourriture lyophilisée et on va pouvoir la diluer en gros avec 25 centilitres d'eau pour pouvoir manger le petit déjeuner. Et puis également, pas le déjeuner parce qu'on court, mais également le dîner. Donc ça demande une gestion très importante. En fait, cette course, c'est de l'autosuffisance, mais sur plein de domaines. Sur la gestion de l'effort, d'une part, et puis sur l'alimentation également.
Sur les soins aussi.
Et sur les soins apportés, parce que donc, Romain le disait, mais il y a des températures de 35 degrés, on va franchir des dunes, on va également avoir beaucoup de chemins caillouteux, etc.
Et, vous allez croiser des bestioles aussi, non ?
Des petits scorpions. Ouais, il y a des scorpions.
Scorpions, serpents, c'est ce qu'ils annoncent un petit peu dans les régions. Ouais.
Alors après, on a de quoi se défendre. Hein. On a un aspie venin qui fait à peu près 10 cm comme ça.
Mais ça suffit,
peut,
ça ?
Bah, avec un crucifix peut-être, oui, on peut réussir à les repousser. Mais effectivement, disons qu'au mois d'avril, ce n'est pas l'époque non plus propice à leur développement, on va dire. On courra plus vite qu'eux, j'imagine. Donc, c'est ce qu'il faut se dire.
Et la gestion de l'eau, ça se passe comment ? Parce que sous 35 degrés...
Ils gèrent directement, en fait, notre approvisionnement en eau journalier, en fonction des températures, en fonction de aussi la journée d'effort. Parce que toutes les distances ne sont pas identiques chaque jour. C'est l'équivalent entre 12 et 20 litres pour les grosses journées. Donc, ils nous distribuent. C'est la seule chose qu'ils nous donnent. Avec une toile tendue au-dessus de notre tête la nuit. Voilà, ce sont les deux seules choses en fait, avec un mail aussi que l'on peut envoyer tous les soirs, parce que voilà, ce sont les seules communications qu'on va pouvoir utiliser en tout cas journalière.
Ça veut dire que les douches sont prohibées. C'est-à-dire que concrètement, avec l'ensemble de l'eau qu'on donne, c'est
la préhistoire. On repart à la préhistoire pendant une semaine. C'est surtout ça en fait. C'est partir en fait du monde occidental pendant une semaine, retourner à l'âge de pierre, retourner vraiment aux instincts primaires, hein, vraiment c'est manger, dormir, se réchauffer parce que le soir il fait froid, le matin il fait frais aussi, la journée il fait très très chaud, il faut se couvrir, on se protège autant du soleil que du froid, c'est voilà, et surtout avec 8 kilos sur le dos, sans compter l'eau, 3 litres d'eau à peu près, on avoisine entre 11 et 12 kilos sur le dos constamment.
Oui, parce que j'allais en parler, vous avez, j'imagine, un équipement particulier, vous êtes venu avec votre sac à dos, un joli sac à dos bien équipé, Romain Clément.
En effet, Tiffaine, oui, un joli sac à dos bien équipé.
Comment ça se passe? Parce que 8 kilos plus l'eau sur le dos, alors...
En gros, on va
le montrer aux auditeurs, ce sac à dos.
Oui, on a envie de le montrer aux auditeurs, même si... On ne pourra pas le faire, vous pourrez le voir sur internet directement, sur le Facebook de l'association Forpass en fait, il est visible en fait et détaillé, des exemples en tout cas de sac à dos sont détaillés. C'est un système de sac à dos avec des gourdes hautes qui font 75 centilitres, deux fois donc 1,5 litre, 1,5 litre aussi en bas sur un sac ventral et un sac sur le dos qui va contenir donc la majorité de nos affaires, à peu près 4 à 5 kilos uniquement pour la nourriture, Donc on a dit 3 litres d'eau constamment. Et puis le reste, c'est le matériel.
Le duvet en dessous ?
Voilà, duvet, matelas.
Matelas parce qu'on est très confort. Nous, on s'est laissé la possibilité de en avoir un.
Un matelas de 2,5 cm d'épaisseur, autogonflant. C'est un truc de folie.
Qui fait 330 grammes. Donc ça va nous changer du petit lit douillet et de la couette.
Et le soir, donc, vous avez expliqué, vous bivouaquez. C'est par équipe de 4. Comment ça se passe en fait exactement la course ? Alors, le soir, vous vous retrouvez tous. Il y a combien d'inscrits déjà ?
On est 1400, il y a 1400 personnes, il y a 400 Français.
C'est pas un maxi bivouac non plus, quoi. C'est par équipe que ça se passe.
En fait, c'est des bivouacs de 8 à 10 personnes et on est classé par nationalité. Donc il y a aussi cette dimension-là internationale en termes d'échange qui va être assez sympathique, on va dire. Donc on se retrouve là le soir et donc nous on part à 4. On s'est donné comme objectif déjà la première journée de la faire ensemble, sur la grande épreuve de terminer ensemble, parce que psychologiquement d'être en 4 c'est une force, et là-dessus c'est important. Et puis après de terminer ensemble si on peut se le permettre, j'ai envie de dire. Et donc le premier arrivé prépare le feu, donc on a des petites gamelles qu'on va chauffer, donc et le soir on va manger ensemble.
Il faut aller chercher le bois, David, c'est ça.
Exactement, on va chercher le bois.
Corvée de bois.
Voilà, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas la guitare pour la petite chanson le soir. On amènera le jeu de cartes, mais voilà. Et on va surtout beaucoup se reposer, surtout durant l'épreuve longue. La troisième journée où on a 28 heures pour faire une épreuve de. On ne sait pas encore parce que le roadbook va nous être distribué concrètement quand on va arriver, entre 80 et 100 km.
D'accord, ils sont un peu fous, je vous l'avais dit. Concrètement, vous avez parlé de la préparation physique, 80 km par semaine, c'est ça, depuis 6 mois ?
À peu près. Alors, on a une prépa, donc on a fait différentes courses au préalable. On a fait des trails dans la région, un petit peu plus loin, à Millau, et puis on s'est préparé également sur la côte, dans le sable, en mangeant un petit déjeuner lyophilisé.
Oui, il y a ça aussi, il faut se préparer à...
Voilà, l'organisme, il faut aussi préparer l'organisme à assimiler des aliments. Mais on a été assez étonnés parce que c'est effectivement, ça fait 5 à 600 kilocalories, mais on a trouvé ça pas trop mauvais. Voilà.
Donc, ils font des choses très très assez avancées et puis
assez cher, mais
non, mais ils font beaucoup de progrès parce que ça s'est démocratisé avec les randonnées, avec de plus en plus le trekking même en famille et tout ça. Donc on trouve facilement maintenant la nourriture lyophilisée sur énormément de sites. Et ils font des choses très très bien. Après, nous on est un peu dans l'extrême. On reconditionne tout pour essayer de gagner 10 à 15 grammes pour les emballages. On est vraiment. Après, c'est une course qu'il faut préparer techniquement. C'est 50% vraiment dans la préparation technique du matériel et vraiment 50% de la préparation physique. Mais voilà.
Et la préparation mentale ?
Eh bien, la préparation mentale, déjà la motivation pour faire cette course, on va dire que 50% du boulot a été fait dans la préparation mentale. Parce qu'à partir du moment où on s'inscrit pour ce genre de course, c'est vrai que c'est un peu un rêve de gosse pour nous. Après, on ne va pas non plus remettre ça pour tout le monde. Mais...
Ça correspond aussi, on parlait d'épreuves, les 10 épreuves les plus dures au monde, entre guillemets. Voilà, c'est un peu des images qu'on a, nous, sportifs, un petit peu... pas extrême, c'est un grand mot, mais pas forcément du quotidien. Voilà, on a comme l'Ultra Trail Mont Blanc, l'UTMB, gravir le Mont Blanc, par exemple, en faisant 70 km, il y a le Marathon des Sables.
La Death Valley,
enfin voilà, c'est vraiment des épreuves qui nous marquent, quoi. Et voilà, quoi. Donc c'est des rêves d'enfants, comme dirait Romain, et il faut savoir qu'il y a très peu d'abandon sur ce genre de course, parce qu'il y a un investissement tellement et psychologique. Et puis également financier.
Ah oui, ça coûte combien une course comme ça ?
C'est ça. On a une inscription qui s'élève à 3 200 euros. L'inscription, c'est-à-dire le vol, la prise en charge totale,
il faut préciser que la structure est assez complète. Donc la structure, c'est donc 1400 coureurs inscrits, il y a 600 bénévoles qui sont dessus, il y a une logistique qui est assez énorme parce qu'il faut quand même surveiller tout ça, on est dans le désert, on est dans un contexte assez compliqué et assez dangereux, entre guillemets, où les gens lambda ne vont pas s'aventurer à rester 6 jours dans le désert, donc il y a 2 hélicoptères, c'est vraiment une course qui est vraiment très très bien organisée, on est même surveillé par la garde présidentielle.
Il y a 70 médecins, c'est-à-dire qu'il y a un médecin pour 20 coureurs.
Mais après, c'est vraiment une structure. On paye un voyage complet, hein, vraiment, du début à la fin. Donc, c'est pas vraiment. Après, le prix, évidemment, c'est quelque chose qu'on fait une, voire deux fois. Pour Franck, en l'occurrence, qui a la chance de pouvoir le faire une deuxième fois, on l'a motivé pour le faire avec nous.
Et il a surtout été très, très courageux, parce que là, on était quatre à se préparer. On s'est beaucoup préparé l'hiver. Et pour vous dire, on faisait des sorties entre 30 et 60 km le dimanche. Franck, lui, en 2009, faisait ça tout seul. Se faire une sortie entre, on va dire, 3 heures de course à pied et 6 heures tout seul, c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà. Donc ça, on tenait tous, enfin vraiment, lui tenir un coup de chapeau, parce que c'est aussi l'expérience qui va nous guider. C'est un métronome aussi, quoi.
Où est-ce qu'on peut suivre vos aventures? Est-ce qu'on pourra les suivre? Non, vous n'allez pas nous envoyer votre unique mail à nous, mais est-ce qu'il y a une page Facebook, site, un blog, je ne sais pas.
Voilà, en l'occurrence, on a l'organisation nous dit en fait qu'on peut avoir un seul destinateur sur ce mail en question qu'on va envoyer tous les jours. Nous, on est quatre, mais on peut le redistribuer. C'est-à-dire qu'on peut redistribuer après sur place en envoyant une personne, il le redistribue à tout le monde. Nous, on a un Facebook directement, Fort Pass, donc c'est quatre chemins, c'est le nom de notre association. On a nos aussi Facebook individuel aussi à chacun, et bien sûr Radio Campus sera au courant via Facebook, via Tiffen aussi, de nos exploits. Après, c'est une course qui est suivie énormément dans le monde entier, hein. Il n'y a que 400 Français, en fait, sur les 1300 coureurs, 400 Français.
Et il y a des VIP également qui y participent.
Voilà, il y a énormément de gens, en fait, de célébrités, parce que c'est des courses qui font rêver tout le monde. Donc après, il y a des célébrités, des sportifs qui sont dans d'autres domaines, qui s'y inscrivent à ces courses-là, parce que c'est des courses où le gagnant va gagner peut-être 5 ou 10 000 euros. C'est ridicule.
5 000 euros, hein. 5 000 euros.
C'est ridicule comparé à d'autres épreuves sportives, comparé surtout à l'effort fourni. Donc c'est vraiment que des passionnés. On se retrouve au milieu de passionnés. C'est assez, voilà, c'est assez magique. Enfin, nous, on attend que ça, de voir les premières étoiles.
C'est vrai que du coup, on a réussi également à travers cette épreuve aussi à développer beaucoup de relations avec des entreprises de la région et des partenaires qui nous ont énormément aidés.
Soutenus.
Ben, on va vous souhaiter bon courage. Alors, bonne course.
Merci.
Merci.
Et merci beaucoup d'avoir été dans le sous-marin, David et Romain, ce soir.
Merci beaucoup, Tiffany.
C'était Science du Varsau Afrobeat Orchestra.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perle de ce soir, c'est dans 10 minutes à 20h dans le hall Bazin de Luco, la pièce Job ou la torture par les amis par la troupe B et T, mise en scène par Théo Lelier. Dans le cadre du festival Les Trois Coups, toute la prog est à retrouver sur le www.letroiscoups.fr ou sur leur page Facebook /3coups festival. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore, un moment campusien à écouter ou à réécouter. Hier soir, dans Ta gueule Coubertin, Marine nous a parlé de Kinball. De quoi ? De Kinball.
Alors le matériel nécessaire à la pratique de ce sport est très simple. Il vous faut un ballon Kinball et deux lots de 4 chasubles de sport de couleurs différentes. Alors là, vous êtes en train de vous dire le kin quoi ? Alors surtout, ne grimacez pas. Le concept même du Kinball a été pensé par Mario Demer et par la suite concrétisé et développé par la compagnie Omnikin en 1987, qui regroupait alors des éducateurs physiques d'université québécoise. Et le Kinball, en fait, c'est un sport d'équipe qui avait été au début créé pour constituer une activité parascolaire. Mais aujourd'hui, il recense près de 4 millions de pratiquants à travers le monde quand même. Et le nombre d'écoles expérimentant ce sport comme activité parascolaire est passé de 10 en 1987 à plus de 600 en 2000. Alors, il faut un ballon qui est quand même d'un diamètre assez important. Il fait 1,22 m et pèse 1 kg. Il faut 3 équipes de 4 joueurs, un terrain pas plus grand qu'un demi-terrain de handball. Le Kinball est une discipline plutôt inhabituelle, c'est vrai. Le point fort de ce sport, c'est qu'il favorise l'esprit d'équipe et développe la réactivité et l'adresse, notamment grâce à l'implication nécessaire de l'ensemble des joueurs. J'ai même appris que c'était suite à des tests concluants qui provoquaient l'engouement des enfants que le Kinball est officiellement créé et réglementé dans les années 90.
La totalité de Ta gueule Coubertin est à retrouver sur le www.radiocampusangers.com et dans 5 minutes, c'est les geeks de Pas de panique qui prennent l'antenne. Salut Profi.
Salut Tiffaine.
De quoi est-ce que vous allez nous parler ce soir ?
On vous parle de pirates, que ce soit les pirates informatiques ou les flibustiers.
Bon, très bien, très bien. C'est dans 5 minutes sur le 103 FM. Merci, à tout de suite Profi. Merci aussi à Pierre-Antoine, merci à Thomas, merci à Maëlle pour la réalisation. Nous, on se retrouve demain à 19h. On essaiera d'y voir plus clair dans les élections départementales. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.
Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.